Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Nous continuons notre série « Les anges qui nous servent ». Nous arrivons à l'étude numéro 3. Nous aurons trois exemples très intéressants et qui sont tirés de la Sainte Bible. Premièrement, l'ange qui ouvre l'accès au ciel. Deuxièmement, l'ange qui empêche le sacrifice. Troisièmement, l'ange qui bénit. Donc, nous commençons par l'ange qui ouvre l'accès au ciel. Il y avait un nommé Jacob. Tous ceux qui sont chrétiens connaissent l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob prend la fuite devant son frère Ésaü. Il craint que celui-ci, peut-être, puisse le tuer, car Ésaü est beaucoup plus fort que lui, alors que Jacob se fie uniquement à son intelligence avisée. Ésaü, lui, il a développé la force de ses muscles. C'est un peu comme, il faudrait dire, ceux qui font de la musculation. Ésaü ne peut pas pardonner à son frère de lui avoir ravi son droit d'aînesse et d'avoir attiré par la ruse la bénédiction paternelle. Maintenant donc, Jacob est en fuite. Il se trouve en plein désert. Il s'apprête à passer la nuit. Il prend une pierre pour comme oreiller et il s'endort. Mais voilà, il a eu un songe. Oh, c'est beaucoup plus qu'un songe. Voilà qu'une échelle était dressée sur la terre et que son sommet atteignait le ciel et des anges de Dieu y montaient et descendaient. Genèse chapitre 28, verset 12. Et tout en haut de l'échelle, il y a Dieu. Dieu qui lui fait la promesse suivante. Je suis avec toi, je te garderai partout, oui, partout où tu iras, et te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai accompli ce que j'ai promis. Genèse chapitre 28, verset 15. Le ciel et la terre sont ici, reliés par, on peut dire, par des anges qui couvrent le ciel au-dessus de celui auquel, dans sa fuite, il semblait plutôt fermé et il semblait que tout était inaccessible. Mais voilà que soudain, c'est sa vie qui se dilate. Son horizon qui s'élargit. Jacob sait à présent qu'il réussira sa vie et que Dieu sera avec lui et accomplira tout ce qu'il a promis de faire de lui. Oh, cela peut être valable pour une amie pasteur que je connais. Oh oui, et bien souvent, nous avons l'impression d'être en fuite. Il y a dans la Sainte Bible beaucoup d'histoires de fuite, mais il s'agit ici d'une façon bien particulière de s'enfuir. Jacob prend la fuite devant ce qui est sa propre ombre. En effet, Ésaü, c'est le frère ténébreux. C'est en quelque sorte l'ombre que Jacob jusqu'alors n'avait pas perçue. Or la fuite, ce n'est assurément pas la bonne manière de se comporter avec son ombre, car dans tous les cas, l'ombre ne manquera pas de rattraper celui qui la fuit. On ne peut pas lui échapper. Tous les psychologues nous disent qu'il est important d'intégrer notre propre ombre, faute de quoi une composante essentielle de notre âme nous manque. Or Jacob n'intègre pas son ombre, mais il la fuit. Il lui faut donc suivre tout d'abord un long enseignement jusqu'au moment où dans sa lutte nocturne, cette lutte avec l'inconnu ténébreux près de Yabok, Genèse chapitre 32, il accepte son ombre et fait en elle la rencontre de Yahvé l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu de tout l'univers lui-même. Il est d'abord en fuite, mais Dieu ne l'y laisse pas seul, car voyez-vous, même la fuite a sa raison d'être. Tandis qu'il fuit ainsi, les anges qui lui apparaissent en rêve lui ouvrent le ciel. Pour moi, cela veut dire deux choses. D'abord, nous ne pouvons pas intégrer notre ombre si nous ne voyons pas notre horizon s'élargir, si l'ange n'ouvre pas le ciel au-dessus de nous. Pour pouvoir accepter notre ombre, nous avons besoin d'un but à atteindre. Qui reste fixé sur son ombre sera condamné à la fuite, car l'ombre lui fait peur. C'est seulement quand il peut la regarder sous un ciel ouvert qu'elle lui paraît moins menaçante. Et quand il s'ouvre, le ciel projette sa lumière aussi sur l'ombre. Ensuite, nous faisons souvent cette expérience d'un ange qui, au moment même où nous sommes intérieurement à bout, il nous ouvre le ciel et laisse transparaître dans notre vie la présence même de Dieu. Et c'est quand nous n'avons plus aucune espérance qu'un ange intervient et nous fait voir toutes choses sous un jour absolument nouveau. Pour beaucoup d'êtres, la crise sans issue devient l'occasion de découvrir une voie spirituelle. Mais celle-ci n'est pas une solution de facilité, ce n'est pas un moyen de sauter, pour ainsi dire, par-dessus la crise. Mais c'est la seule voie qui puisse nous permettre vraiment d'avancer. Et quand tous les chemins sont barrés au dehors, il ne nous reste plus d'autres possibilités pour rendre à notre vie une tournure positive que de cheminer à l'intérieur. Et c'est alors de ce cheminement spirituel que nous découvrons notre être véritable, c'est-à-dire notre soi, qui nous montre une issue par laquelle que nous pouvons sortir de l'impasse où nous étions hélas tombés. Chez les enfants aussi, les anges ont pour fonction d'ouvrir le ciel. Dans une famille déchirée, la vie apparaît souvent aux enfants comme un désert ou un enfer. Or, personne ne saurait vivre éternellement en enfer. Pour qu'il le supporte, il faut donc qu'un ange ouvre sans cesse à nouveau le ciel au-dessus d'eux. À cet effet, l'ange peut choisir différents moyens. Tel enfant qui vit l'enfer à la maison trouvera un merveilleux plaisir à regarder une belle fleur, ou bien, pourquoi pas, à caresser avec amour le chat ou le chien familier. Tel autre peut s'oublier lui-même dans ses jeux. Alors le ciel s'ouvre au-dessus de lui, au-dessus d'elle, et c'est un nouveau horizon qui apparaît devant lui, devant elle. Tel autre encore trouvera sa joie dans le service divin auquel il ou elle aime assister. Il y entend les chants qui le transportent dans les cieux parce que son cœur est touché. Ça, c'est une porte qui s'ouvre pour lui, pour elle, et son âme se dilate. Les enfants ne réfléchissent pas à tout cela. Ils recherchent spontanément les lieux où leur vie communique avec le ciel, où les anges descendent et montent sur l'échelle divine. Et là, oui, là, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, mais que Dieu va vraiment les accompagner et veiller à ce que leur vie soit bonne. Quant à la prière que notre ami Jacob a prise, c'est-à-dire, pardonnez-moi, quant à la pierre, car nous nous rappelons qu'il avait pris une pierre. C'est pas tout à fait comme un coussin bien doux, mais c'était, hélas, une pierre. Alors Pierre a pris, plutôt Jacob a pris une pierre comme oreiller. C'est vrai. On peut considérer cela comme étant l'image de toutes celles sur lesquelles nous trébuchons, vous et moi, sur notre route, et qui peut même nous faire tomber. De la pierre d'achoppement, l'ange peut faire en quelque sorte le support où s'appuie l'échelle. Cette échelle, rappelez-vous, qui reliait la terre au ciel. Et c'est là même où nous trébuchons et nous tombons, c'est là où nous allons échouer, et c'est là qu'un ange peut venir nous ouvrir le ciel, là où les autres ont mis une pierre sur notre chemin pour nous jouer un sale tour, que notre horizon s'élargit. Et nous voyons alors quel est le but de notre existence. Ce n'est pas pour rien que Jacob, à la fin de l'histoire, ramasse la pierre et il la dresse, et c'est vrai, il la dresse comme une sorte de stèle et répand ainsi de l'huile sur son sommet. Il y avait une raison à cela. Genèse chapitre 28, verset 18. Tout cela devient pour lui le mémorial de la promesse que Dieu, en lui parlant, lui a faite de le mener au but. Dieu a promis de le mener au but. Jacob y verse donc de l'huile et il sait traiter avec beaucoup de douceur et délicatesse la dureté de la pierre. Les obstacles qu'il rencontre dans sa vie, en faisant ainsi un lieu de fécondité, un de ces lieux où quelque chose en nous, en vous, peut pousser et mûrir. Et voilà que la pierre devient un signe de la bénédiction divine qui s'est répandue sur nous, et sur nous la même où tout en nous s'était pétrifié. Il nous faut donc souvent un certain recul pour voir que la pierre sur laquelle nous avons trébuché était bel et bien la pierre de la bénédiction. À l'instant où nous tombons, nous ne savons que la maudire pour le moment. Mais il vient un moment quelconque, où nous reconnaissons que cette pierre a marqué le surgissement en nous de quelque chose d'absolument neuf, c'est-à-dire le début d'une maturation. L'histoire de Jacob veut donc nous montrer que l'ange est près de nous, il est près de nous là même où nous trébuchons, où tu trébuches, et que c'est là précisément où nous tombons sur le nez, que voilà que le ciel s'ouvre au-dessus de nous et que nous sommes comblés par la bénédiction divine. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Deuxièmement, nous avons l'ange qui empêche un certain sacrifice. Il y a Abraham. Abraham, il est mis à l'épreuve par Dieu, car il doit offrir en holocauste son propre fils Isaac. Ce n'est pas rien. Il se met donc en route avec Isaac, il gravit la montagne désignée par Dieu, il lie l'enfant et le dépose sur l'autel. Comme il étend la main pour l'immoler, voilà que l'ange du Seigneur l'appelle par son nom et lui donne cet ordre. Abraham, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse chapitre 22, verset 12. C'est une histoire très délicate qui suscite toujours la révolte de ceux qui l'entendent raconter. Il y en a qui disent, comment Dieu peut-il exiger d'Abraham le sacrifice de son fils? N'est-ce pas là un Dieu cruel, pire que Donald Trump ou que le leader en Corée du Nord? On peut donc comprendre la chose de différentes manières. Il y a l'interprétation sur le plan du sujet. Ce que j'ai de plus cher, je ne peux pas le conserver toujours, oh non. il me faut donc y renoncer. Et c'est seulement ainsi qu'il m'est possible d'avancer sur mon chemin intérieur. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Ce n'est pas drôle du tout. Je ne dois interposer aucune idole entre Yahvé l'Éternel, mon Dieu, et moi. Pas même ce que je sens en moi de plus précieux. Mais cette histoire du sacrifice d'Abraham, je voudrais l'interpréter ici du seul point de vue de l'ange. Voyons cela de plus près. On pourrait alors se demander si Dieu a vraiment exigé le sacrifice d'Isaac. Peut-être Abraham a-t-il seulement pensé que Dieu voulait la mort de son fils. Peut-être l'image qu'il avait de Dieu était-elle encore imparfaite. C'est l'avis de nombreux exégètes. Pour eux, cette histoire montre qu'en Israël, les sacrifices humains n'étaient plus possibles, l'image de la divinité ayant changé. Pour moi, il ne s'agit pas d'une histoire très ancienne, pas du tout. Je rencontre souvent des parents, j'en ai rencontré, vu mon grand âge, qui pensent être agréables à Dieu en lui offrant leur enfant en sacrifice. Bien sûr, ils ne les sacrifient pas sur l'autel de l'Holocauste, d'accord. Ils le font sur celui de leur moralisme rigoriste. Le plus important pour ces parents-là, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'obéir à tous ses commandements. Or, ils ne voient pas du tout que ces commandements auxquels ils obéissent, ce ne sont pas ceux de Dieu, non, mais ceux de leur propre angoisse et de leur propre étroitesse d'esprit. Et c'est parce qu'ils sont fixés sur ces commandements et sur eux-mêmes qu'ils sacrifient leur enfant. Celui-ci ne reçoivent, ils reçoivent que froideur de la part de leurs parents. Ils sont crispés sur l'idée de vivre selon la volonté de Dieu et totalement privés du sens de ce dont les enfants ont vraiment besoin. Pourtant, les images d'un Dieu de rigueur ne sont pas les seules auxquelles on sacrifie les enfants. Il y a aussi les nombreuses idoles qui, pour certains parents, sont beaucoup plus importantes que leurs propres enfants, telles que l'argent. Oh là là, l'argent. La carrière. Il faut faire carrière, même si tu y laisses ta santé. Le plaisir dont on ne peut pas se passer. Quand de telles idoles déterminent la vie des parents, alors l'enfant est aussi sacrifié. Il est certes toléré, mais on ne lui concède pas l'espace dont a besoin sa vie. On le pousse sur le côté afin de poursuivre ses propres buts. Et d'autres parents sacrifient leurs enfants sur l'autel de leur ambition. Ah, ils ont des ambitions. L'enfant doit réussir absolument tout ce que ses parents ont manqué. il doit prendre des leçons de danse. Il ou elle doit apprendre à jouer d'un instrument de musique, si possible le violon ou le piano. Savoir aussi monter à cheval, c'est important. Il faut apprendre à jouer au tennis. Il faut lui faire donner des leçons particulières dans différentes matières pour qu'il puisse passer brillamment son baccalauréat et qu'il puisse ou qu'elle puisse faire des études de médecine, pourquoi pas. Il ne sert à rien de vitupérer ces parents-là, car ils ont besoin, vraiment ils ont besoin, qu'un ange arrête leurs bras déjà étendus, pour les empêcher de sacrifier leur enfant. Voyez-vous, l'histoire d'Abraham nous permet d'espérer que même quand des parents sont prêts à sacrifier leur enfant, un ange peut intervenir et alors ouvrir les yeux en leur faisant prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire et en leur montrant ce qu'ils doivent vraiment sacrifier. Le bélier qui s'est pris, il s'est pris par les cornes dans le buisson, rappelez-vous. Le bélier, c'est le symbole de la force. Au lieu de l'enfant sans défense, ils doivent immoler une partie de leur propre force, de leur succès, de leurs ambitions, de leur efficacité dans le monde extérieur, afin que leur enfant puisse vivre. Et quand toute l'existence des parents tourne autour de leur propre activité, alors l'enfant ne reçoit pas son dû. Dans notre histoire présente, l'ange protège l'enfant en arrêtant, tout simplement en arrêtant le bras du père. Il est aux côtés de l'enfant et son enseignement, elle s'adresse aux parents. Chez l'enfant, il y a quelque chose qui rompt le cercle infernal des rites sacrificiels des parents. Celui-là même qui, comme Isaac, paraît entièrement démuni et livré, impuissant à la volonté paternelle, il a, comme vous le voyez, son ange qui intervient quand ses parents sont fixés sur le rituel. Si des adultes qui ont été blessés dans leur enfance se penchent sur leur passé, alors ils y découvrent un de ces anges qui ont empêché leurs parents de les immoler. Un ange a donc freiné la colère subite d'un père irascible, atténue les coups qui sont portés par la mère, a ouvert une brèche dans l'image d'un dieu rigoriste et dans le culte des idoles, et l'enfant a pu ainsi vivre malgré tout. Dans un livre intitulé Assez de victimes sacrificielles, chacun doit vivre sa propre vie. La psychanalyste Verena Kast décrit des êtres qui, tout au long de leur vie, se sont sentis en position de victime et s'obstinent à y rester. Ils refoulent leurs pulsions agressives, évitent tous les conflits et ont l'impression d'être livrés sans défense à l'agressivité des autres. Alors ils adoptent une attitude de passivité, de retrait, et se refusent à prendre eux-mêmes leur vie en main. Ils ont peur du changement et ils s'enlisent. Rien ne va plus. Et d'ailleurs, rien ne doit plus aller. Et c'est ainsi que le thème de la victime sacrificielle domine leur existence. L'ange libère Isaac de sa position de victime. Il défait les liens qui le retiennent sur l'autel de l'Holocauste. Il affranchit aussi Abraham de son rôle agressif à travers le bélier. Et c'est une partie là de sa propre force que Abraham sacrifie. Et c'est ainsi que Isaac peut vivre. Alléluia. Voyez-vous, quand un enfant se sent en détresse, il est très menacé de se glisser dans le rôle de la victime. Il tombe dans l'apathie. Il s'accommode de tout. Il n'a pas le choix. Mais alors, il ne vit pas vraiment. J'ai connu cela pendant toute mon enfance. L'histoire du sacrifice d'Abraham, elle nous permet d'espérer que même dans le cas des enfants qui n'ont guère la chance au dehors d'échapper à leur rôle de victime, voilà qu'un ange interviendra, gloire à Dieu. Et cet ange est et se trouve aux côtés de l'enfant qui se défend contre les agressions de ses parents, qui se soustrait aux cris furieux d'un père alcoolique en allant se réfugier dans le jardin sur le signe de bois qui a été fabriqué par son grand-père et peut-être d'y chanter des chansons. Et c'est ainsi que l'enfant se libère de l'arbitraire menaçant de son père et entre en contact avec sa propre force. L'ange est avec l'enfant qui ne s'accommode pas de l'atmosphère étouffante de la maison et va rejoindre les camarades avec lesquels il peut donner libre cours à sa vitalité. Chers amis, où l'enfant, aussi bien que l'adulte, prend-il la force de se dégager des entraves qui font de lui une victime? L'idée lui en vient-elle spontanément? Est-ce le jeu des composantes saines de son âme? Est-ce l'enfant divin en lui? Ce qui donne aux êtres l'énergie de s'évader du rôle de victime et de vivre leur propre vie, nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous ne savons pas, en fin de compte. Mais il nous est permis, de croire que c'est un ange qui veille sur eux et arrête la main du sacrificateur. Voyez-vous, beaucoup d'êtres restent leur vie durant bloqués dans le rôle de la victime. Il est difficile de vivre avec eux, car même s'ils se donnent vu de l'extérieur, l'apparence de l'agneau du sacrifice et qu'ils prennent sur eux tout ce dont autrui les charge, il émane d'eux un climat d'agressivité refoulée. L'agneau du sacrifice communique aux autres des sentiments de culpabilité. Si cette mère va tellement mal, si elle est à ce point malade et fatiguée, mais c'est parce que ses enfants lui causent tellement de soucis et attendent d'elle beaucoup trop de travail, l'agneau du sacrifice est donc un reproche permanent qui est adressé à ceux qui l'entourent, s'il croule, par exemple, sous le fardeau dont les autres l'accablent, et c'est évidemment leur faute. Pour sortir du cercle infernal de ce rôle et de l'agressivité larvée qu'il implique, on a donc besoin d'un ange qui mette un terme à ce jeu pervers. Et c'est lui qui arrêtera le bras et les yeux qu'il ouvrira verront tout à coup le bélier. Au lieu de nous sacrifier nous-mêmes, eh bien sacrifions donc le bélier, ce bélier que Dieu nous présente. Immolons une partie de la force qui réside en nous, c'est de ce sacrifice de notre force et de notre agressivité que pourra naître ainsi la vie. Troisièmement, et nous terminerons avec ce passage-là, troisièmement, nous avons l'ange qui bénit. Eh oui, peu avant de mourir, Jacob bénit son fils Joseph et les fils de celui-ci, Éphraïm et Manassé, en disant « Que l'ange qui m'a sauvé de tout mal bénisse ses enfants, que survive en eux mon nom et le nom de mes ancêtres. » Genèse chapitre 48, verset 16. Je vois là une très belle image. Tout être humain, et nous le savons aujourd'hui, et je le sais aussi, a un ange qui étend sur lui, sur elle, sa main, dans le geste de la bénédiction. Elle lui fait des promesses de bonheur. Le verbe bénir vient du latin benedicere, prononcer de bonnes paroles. C'est de dire du bien au sujet d'un être. L'ange qui bénit, c'est en même temps celui qui sauve de tout mal, qui détourne le malheur et nous délivre de tout ce qui nous rend malades. Il y a des enfants qui n'entendent guère de bonnes paroles. On leur dit au contraire sans cesse qu'ils devraient faire telle ou telle chose, qu'ils ont encore fait ceci ou cela de travers, et qu'ils devraient cesser d'être aussi ridiculement sensibles. Pire encore, plutôt que des bénédictions, certaines paroles sont carrément des malédictions. J'ai entendu des choses telles que « Au fond, tu ne devrais même pas exister. Tu es une charge pour moi. Tu nous feras mourir. tu vas voir où tout ça nous conduit. Tu n'arriveras jamais à rien, car tu es trop bête. Tu n'es qu'une charge pour nous. Tu payeras pour toute l'éternité ce que tu nous as fait. Que Dieu te punisse à jamais d'être aussi mauvais. Eh bien, je connais des gens qui ont l'impression tout au long de leur vie qu'une malédiction pèse sur eux. J'ai connu cela pendant des dizaines d'années. Malédiction de n'être jamais digne de la communion. Malédiction de ne jamais pouvoir devenir un membre à part entière de la communauté des hommes, de ne jamais savoir répondre aux attentes des parents. Une telle malédiction a pour effet de paralyser la vitalité, de vivre dans la malédiction. Et cela signifie vivre dans l'angoisse permanente qu'elle finisse un jour ou l'autre, par se confirmer. Or, l'ange qui bénit, cela peut être une personne de nature paternelle ou maternelle. Ça peut être une Sabina. Ça peut être une voisine, ça peut être la grand-mère, le grand-père ou le maître d'école, et peut-être, pourquoi pas, la pasteur. Mais ce peut être aussi l'ange que l'enfant entend parler en lui-même. Il suffit d'écouter les conversations des enfants avec leur peluche préféré. Or souvent, ils prononcent des paroles de bénédiction, c'est vrai, qu'ils semblent certes adresser à l'animal, mais qu'ils s'adressent en réalité, sans le vouloir, à eux-mêmes. Soit que l'enfant apprend à faire le lien entre la réalité intérieure et la réalité extérieure, il y prononce d'autres paroles que celles qu'il entend de ses parents, heureusement, et il y exprime ce dont son cœur a vraiment besoin, ce à quoi il aspire. Le domaine intermédiaire, c'est aussi celui où l'enfant saisit intuitivement la présence de l'ange qui le bénit et lui adresse de bonnes paroles. À travers les mots de l'enfant, c'est l'ange qui parle et qui étend sur lui sa main pour détourner la malédiction que profèrent ses parents. Jacob appelle l'ange, il l'appelle, et l'ange bénit ses enfants, l'ange qui l'a sauvé de tout mal. Et cet ange protège en effet l'enfant contre tous les maux, il dénoue les entraves qui l'empêchent de vivre. À l'extérieur, l'enfant n'a souvent aucune chance. Il est pris dans un climat de malheur, de querelle, de brutalité, de chaos émotionnel. Mais l'ange qui l'accompagne crée une saine distance qui évite à l'enfant de recevoir tous les coups. Il le libère d'une implication trop étroite dans la réalité extérieure, en le mettant en contact avec sa réalité intérieure, à laquelle le malheur n'a pas accès. Quand le réel extérieur est trop cruel. Alors l'ange conduit l'enfant dans cet espace en lui où il reçoit la bénédiction et où il est vraiment lui-même, vraiment intact, où nul ne peut plus le blesser. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre comment les enfants survivent souvent, même sans dommage, à des expériences qui souvent sont très cruelles. Amen. Chers amis, nous allons donc terminer par la prière. Et je voudrais, si c'est possible, de vous transmettre quelques chants, quelques mélodies d'un lointain passé en 1962. Il n'y avait ni CD ni cassette. Il y avait des appareils à bande tels que les Revox, pour les plus fortunés, le Nagra de Koudelski. Mais vous comprendrez que, avec toutes ces années, puisque je suis un très très vieux bonhomme, eh bien, la qualité n'est plus la même. Il est même possible que les paroles ne sont plus tellement audibles. Mais c'était encore des chants et des mélodies merveilleuses. La prière que je voudrais, ou plutôt que l'Esprit-Saint me donne pour vous transmettre, c'est un peu original. C'est une prière qui devrait aider certains d'entre vous qui écoutez cette étude, que vous puissiez l'adopter et l'adapter à votre propre histoire. Alors, vous comprendrez que c'est pour vous aider à formuler vos propres paroles. Seigneur, pourquoi m'est-il tellement difficile de maintenir mon cœur tourné vers toi? Pourquoi toutes ces petites choses que j'ai planifié me passe-t-elle par la tête à des moments où je suis absolument libre d'être près de toi et uniquement près de toi? Pourquoi mon cœur désire-t-il ces choses qui m'égarent? Ne me suffis-tu pas? Est-ce que je doute encore de ton amour et de ta bonté, de ta miséricorde et de ta grâce? Ne suis-je toujours pas entièrement certain du fond de mon cœur de ce que tu me donneras tout ce dont j'ai besoin, et cela dès que je tourne mon regard vers toi? Je t'en prie, Seigneur, accueille mes distractions, ma fatigue, mon irritabilité et mes hésitations. Tu me connais bien mieux et bien plus en profondeur que je ne me connais moi-même. Tu m'aimes d'un amour bien plus grand que celui dont je suis capable moi-même. Tu m'offres même bien plus que tout ce que je peux désirer. Regarde-moi dans toute ma misère et dans tout mon trouble, et fais que je puisse sentir au cœur même de mon agitation ta présence. J'ai parfois peur que tu puisses me rejeter, mais je sais et j'ai la certitude de la foi que tu désires me donner ton amour. La seule chose que tu exiges de moi, c'est que je sois ouvert et que je ne me cache pas devant toi et que je n'agisse pas comme si tu étais un despote impitoyable. Ô Seigneur, prends mon corps épuisé, mon esprit désemparé, mon âme inquiète entre tes mains, et donne-moi le repos, le simple repos paisible. Est-ce que je ne te demande pas trop déjà? Je ne devrais pas m'inquiéter de la chose. Tu me le révéleras à coup sûr. Ô, viens, Seigneur Jésus, viens dans mon âme et dans mon esprit. Amen. Et maintenant, je veux essayer de vous transmettre des chants d'autrefois.
I walk by the river where we say goodbye. Thought of your kisses and didn't even cry. I know. Convicted and condemned. The trial's over, and now I face the end. Is this your way of telling? Jury all in one. You found me guilty, and now my turn's begun. I must confess I've never been untrue. And all I'm here consider an appeal. For now you know exactly how I feel. Thought I'd stop by a while and see just once more before I leave town. But his car's parked there in your driveway, and I see the curtain down. I won't bother to ring your doorbell. I'm not sure just how much I can bear. I might do something I'd be sorry for later. So I won't come in while he's there. Does he know my whole world is in there with him? That he's king while he sits there in my chair? I'd like to tell you just how much I still love you, but I won't come in while he's there. No, I won't come in while he's there. Are you thinking that I wasn't meant for you? Could it be you believe that I've been untrue? Listen, sweetheart, this just cannot be, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like Michael loves you, but you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me.